Elodie Creuset, Radio Victoria, IGL.
Place à notre entrevue avec vous, Elisabeth Roche. Je rappelle pour ceux et celles qui arrivent peut-être en cours de route que vous êtes présidente du comité franco-queer de l'Ouest, également enseignante, militante pour la justice linguistique. Vous œuvrez à favoriser l'agentivité des élèves francophones queer et marginalisés. Nous sommes encore dans le mois des fiertés, qui certes est une fête et une célébration de la diversité. On parlera bien sûr des festivités, mais c'est également un événement qui sert, et peut-être même surtout, à rappeler les droits des personnes LGBTQIA2S+, à rappeler qu'elles existent. Alors j'aimerais, pour commencer, Elisabeth, m'attarder avec vous sur la création du drapeau de la fierté franco-colombien. Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi aussi il a été créé?
Quelle belle question. Merci beaucoup. Quand j'ai commencé mon travail au CSF, il y avait un article qui est sorti dans la presse qui parlait, je pense que le titre de l'article, c'était un article de Radio-Canada, c'était la difficile, au CSF, la difficile intégration d'un garçon trans. Et l'article abordait le fait que ce garçon a fini par quitter le système scolaire francophone en ayant l'impression qu'il fallait choisir entre vivre de façon authentique ou avoir une éducation en français. Et je trouvais ça absolument dévastateur parce que notre système lutte pour protéger les personnes en situation minoritaire, mais du point de vue linguistique. Et non seulement transmettre la culture, on parle souvent de transmission linguistique, mais aussi construction d'une culture langagière et une culture à plusieurs dimensions, aussi des dimensions visuelles, n'est-ce pas? Donc, ce projet-là s'inscrit dans une volonté d'explorer avec les élèves l'idée de la construction identitaire francophone, mais de leur point de vue. Qu'est-ce que c'est qu'une identité francophone? Comment est-ce qu'on la représente d'un point de vue visuel? Puis les élèves, leur point de départ, c'était des questions sur le drapeau franco-colombien. Parce qu'on se rendait compte que ce drapeau occupait une place importante à l'école, dans le sens que si on entre à l'école, on le retrouve tout de suite à gauche. Et pourtant, les élèves ne connaissaient pas le drapeau. C'était un objet illisible. C'était un objet un peu mort. C'était un objet de l'arrière-fond. C'était un objet qui n'était pas vraiment dans leur conscience. Puis on s'est conscientisé. On a appris sur le sens de ce drapeau-là. Mais ça a inspiré la volonté de réfléchir à l'idée d'un héritage en construction identitaire et de créer un pan intergénérationnel, de rendre hommage à ce drapeau en le réinvestissant avec d'autres symboles et d'autres revendications qui sont importantes pour les élèves actuels. Et c'est de là que le projet a émergé. C'est vraiment un projet, c'est une initiative portée par des élèves en concertation avec d'autres élèves, mais également avec des partenaires communautaires autochtones. Puis ça, c'est un point qui pourrait peut-être être discuté de façon plus profonde aussi.
Alors, vous êtes militante pour la justice linguistique parce que vous ne le savez que trop bien, la bataille, elle est aussi dans les mots qui précèdent tout, les mots qui définissent, les mots qui parfois étiquettent et qui servent aussi à définir sa propre identité. Vous allez nous parler de ce combat pour les mots, Elisabeth. Et j'ajoute avant cela que nous sommes en plus en milieu minoritaire, vous l'avez mentionné. On pourrait presque parler de double combat. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour la communauté franco-queer ici, dans l'Ouest canadien? Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face pour faire entendre votre voix en français?
Oh là là, j'adore la question. J'ai essayé de répondre à toutes les parties de la question. Je pense que l'enjeu principal, c'est de ne pas avoir à choisir quelle facette de son identité mettre de l'avant, ne pas avoir l'impression qu'il faut se mettre en morceaux en fonction de son public. Puis ça, c'est complexe aussi. Je sais qu'il y a des élèves qui m'ont parlé de cacher aussi, se placarder du point de vue de leur francophonie par rapport aux anglophones, par rapport à d'autres francophones, par rapport à des contextes moins formels ou plus formels. Il y a des élèves qui m'ont dit, moi je sais tout dire sur la physique et la biologie, mais parler de mes émotions en français, là j'ai honte. parce que j'ai pas un vocabulaire authentique. Donc, je pense que les enjeux pour les vous parliez d'enjeux pour les personnes franco-queer, spécifiquement
oui,
milieu minoritaire. Je pense que c'est ne pas avoir à faire de compromis tout en souriant. Je pense que c'est ça. C'est que on a le droit de s'amuser sans compromettre les choses dont on a besoin pour être bien dans son corps et bien dans sa communauté. Je pense que moi, je me sens très bien ici dans cet espace avec vous. C'est intéressant. Parfois, j'ai l'impression que le fait d'avoir un certain accent ou d'utiliser un certain pronom, le fait d'être dans un certain système, ça peut créer des malaises. Puis je peux les comprendre. Les gens ressentent des malaises face à des évolutions, des changements.
Ils ne comprennent pas.
C'est ça, face à l'inconnu, face à la nouveauté. Et je pense qu'il y a parfois la peur que les personnes franco-queer ici en milieu minoritaire, on va davantage fragiliser la communauté francophone parce qu'on va trop demander. Tu sais, on va trop demander d'un système qui est déjà fragilisé. Et pourtant, je pense que c'est le contraire. Parce que les personnes franco-queer montrent à quel point on fait preuve d'innovation ici en Colombie-Britannique. On fait preuve d'innovation, nos élèves. En fait, on a fait une étude. Une des retombées positives du drapeau franco-colombien de la fierté était d'étudier les points de vue des élèves ou les finissantes et finissants du conseil scolaire francophone sur les implications langagières de ce drapeau. Mm-hmm. Parce que si on parle d'inclusion et de solidarité avec les personnes franco-queer, il y a des implications sur le point de vue de la langue.
Bien sûr.
Et je crois que, en fait, on aide le reste de la communauté francophone à prendre sa place sans avoir à se justifier auprès des centres majoritaires. Quand on a le droit à un français qui tient compte de toutes les personnes, toutes les personnes dans notre communauté sont visibles et lisibles dans la langue qu'on utilise à l'oral et à l'écrit en Colombie-Britannique. Donc, pour moi, c'est une question de dire non seulement qu'on n'a pas à faire de compromis, mais aussi qu'on n'attaque pas les autres et aussi qu'on aide le reste de la communauté à s'épanouir en disant on a le droit de se sentir fier de la langue qu'on parle ici. On n'a pas besoin de chercher une voix ni de la France ni du Québec pour se sentir légitime.
On a dit en début d'entrevue que vous œuvrez aussi à favoriser l'agentivité des élèves francophones queer et marginalisés. Concrètement, vous les encouragez à être acteurs et actrices du changement, mais comment? Quelles sont les clés? Parce que tout le monde n'a pas l'âme d'un militant ou d'une militante. certains voudraient peut-être juste avoir à vivre sans se cacher, ni sans militer. Mais bon, évidemment, ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'il n'y aura plus besoin de militer quand on sera dans un monde idéal où on sera accepté tel qu'on est. Donc, comment vous faites?
Je pense que le mot militant et le verbe militer peuvent inciter beaucoup de peur, surtout pour les parents qui m'écoutent en ce moment.
Absolument.
Ils sont, oh là là, personne qui enseigne, qui milite. On n'enlève pas les élèves de l'école pour brûler des voitures dans la rue, hein. C'est pas ça. On parle pas de ça. Mais à la place de voir le français comme un objet statique dont les règles tombent du ciel, je pense le militantisme en contexte francophone minoritaire, c'est favoriser un apprentissage de l'héritage sociopolitique de la langue. Et que les règles elles-mêmes reflètent des contextes sociopolitiques et malheureusement des contextes sociopolitiques hautement injustes et violents. Et donc les élèves comprennent que ces règles-là ne sont pas neutres. Les règles qu'on traite de neutres ne sont pas neutres. Mais aussi montrer aux élèves qu'il existe des antécédents de différence dans la langue. Qu'il y avait une époque où on parlait de doctoresse et de poétesse. Et là, on fait preuve de rigueur historique. Nos élèves parlent de l'histoire de la langue et l'histoire de la différence langagière. Et de là, on peut inviter nos élèves à devenir des participantes et participants dans des études et des projets créatifs. mais qu'on est des productrices et des producteurs de culture. Donc pour moi, je pense que les personnes pédagogiques qui m'écoutent vont dire là, tu fais du plagiat parce que tu es dans une dynamique de Paulo Freire. Right? C'est vraiment une vision freirienne de l'éducation et que les élèves doivent aussi être enseignants-enseignantes, qu'on ne peut pas séparer ces choses et que un projet révolutionnaire est un projet dans lequel les élèves s'enseignent les uns les unes les autres et libèrent les uns les unes les autres. Donc pour moi, c'est vraiment un espace, c'est très jouissif, hein? C'est pas, comme je te dis, c'est pas, comme je vous dis, pardon, j'ai du mal avec l'école, je me sens en sécurité, en intimité ici avec vous.
Tant mieux.
Mais c'est un espace de sécurité où on peut poser de très grandes questions et aussi dire, on est capable ici de faire bien plus que recevoir un héritage, mais aussi on répond à cet héritage, on réplique à cet héritage en construisant et en revendiquant.
Merci à vous, Elisabeth Rush, pour cette discussion, cette entrevue très riche.
C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.
C'est partagé. Bonne journée à toutes et à tous.